Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 21 janvier 1992.
Vous nous avez montré hier les six modalités d'actes à travers les différentes parties de la philosophie. Pourriez-vous nous expliquer la distinction entre energia et entelecheia dans chacun de ces actes? Oui. C'est très bien. On le verra parfaitement que, au niveau de l'être, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que dans ces différentes parties de la philosophie, c'est-à-dire au niveau de la philosophie humaine, au niveau de la philosophie de la matière et du vivant, ce sont des états différents qui sont liés l'un à l'autre. Est relatif et inséparable. Et je vois un état en puissance, un état en acte. Et dans cet état en acte, il y a l'entelecheia qui est lié à l'energeia. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Prenez l'exemple le plus simple, c'est dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié me fait découvrir l'ami. L'ami, c'est energeia. C'est lui que j'atteins le terme. La tentation, c'est de m'arrêter à mon vécu d'amour. Alors c'est le ronron du chat auprès du feu. Je suis heureux d'aimer. Ça me met dans un état de chaleur. Je suis heureux d'aimer. Et l'ami, je ne le vois que relativement à moi. Et il reste accaparement. Et j'ai beaucoup de peine à découvrir que l'amour, c'est justement le dépassement de moi. Je suis plus occupé à mon état vécu d'amour qu'à l'ami. Ça, on peut très bien le comprendre. On met du temps à purifier notre amour d'amitié. L'état passionnel de l'amour d'amitié l'emporte sur l'aspect spirituel. Je suis tellement ému de mon amour d'amitié. C'est tellement merveilleux que l'aspect extatique de l'amour n'est pas vécu en ce sens que je ne suis plus vers l'ami, mais c'est moi. Bon, là, vous voyez, entelecheia, energeia, c'est très lié. Je ne peux pas les séparer. Je les vis en parallèle et je vois l'état, ma capacité d'aimer et mon amour d'amitié. Je crois que ça, on peut le saisir. Je vois la même chose du côté du Vatschere. Le travail ordonné par l'Eidos et l'œuvre. C'est plus facile Energeia et mon travail Entelegeia. Mon travail m'unit à mon œuvre. Et je peux très bien aimer plus mon travail que mon œuvre, que l'œuvre comme telle. Parce que le travail est vécu au-dedans de moi. L'œuvre est extrinsèque. Elle m'échappe. Et je vois ce qui est en puissance, ma capacité de travailler et le travail. Donc vous voyez, distinguez bien les trois. Ma capacité de travailler, l'entelegeia, qui est un étang, qui me lie à ma faim, et la faim elle-même. Puis ma capacité. Nous voyons également en philosophie de la matière, point de vue spéculatif, je vois le mouvement qui est l'acte du monde physique, des réalités physiques. Ces réalités physiques impliquent une matière qui, elle, n'est pas mue. Il faut qu'elle soit informée, déterminée pour être mue. Tout mouvement implique une détermination. Et je vois ceci se réaliser parfaitement dans l'élément feu. C'est là où le mouvement est le plus parfait. Alors je dirais, le mouvement le plus parfait dans le monde physique, pour les anciens, et ça reste vrai, c'est le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire est toujours un mouvement de réalités qui sont des réalités en feu. Il y a un mouvement circulaire qui, d'une certaine manière, est infini, qui dure toujours, qui n'a pas de terme. Mais je le vois à l'état pur dans le feu, dans cette sorte d'éclatement du feu, ce mouvement vers le haut. Et c'est intéressant du reste de bien garder ces deux aspects-là. Puis alors, chez le vivant, de vie végétative, le mouvement de la génération qui permet le dépassement d'individus et qui atteint un autre. Et dans le vivant spirituel, le point de vue de la vérité, le point de vue de l'amour, il faut réfléchir sur ces six modalités. Autre question. Pouvez-vous réexpliquer la différence entre l'amour dans l'acte moral et dans la volonté, de façon simple si possible? L'amour moral et volontaire. Donc il n'y a pas de différence. Donc c'est simple. Tout amour moral et volontaire. Pour que, alors je suis d'accord que le volontaire peut être fondamental et le volontaire pleinement conscient dans le choix. Prenez tout simplement dans l'amour d'amitié. il y a le choix. Je suis là en face de l'acte moral dans toute sa conscience. Et ce choix volontaire implique un premier amour qui, lui, est tellement simple que vous n'en avez conscience ordinairement que lorsque le bien disparaît. C'est l'absence du bien, comment Dieu dit, le manque, qui me fait découvrir ce premier amour, très souvent. Et l'amour s'empare de nous d'une façon radicale, fondamentale. Et on n'en a pas toujours conscience. Ça explique beaucoup de choses, je dirais ça. L'amour n'est pas en lui-même conscient, sauf l'amour spirituel. Mais l'amour passionnel n'est pas conscient. C'est pour ça qu'on dit que l'amour pour un aveugle. Je peux être saisi par une passion d'amour sans en avoir conscience. Tous les autres en auront conscience, mais pas nous. Seul dans l'amour spirituel, j'ai conscience d'aimer. Et dans l'amour passionnel, je m'apercevrai que j'aime passionnément avec l'absence. Je serai triste. La tristesse sera le signal d'alarme de cet amour passionnel. C'est très curieux. C'est pour ça que l'amour est simple, mais il est vécu de façon complexe. Il n'est pas vécu de façon simple. Il faut beaucoup de temps pour que l'amour soit vraiment spirituel et simple en nous. Au point de départ, l'amour est passionnel. Et il n'est pas simple du tout. La passion n'est pas simple. C'est une complication invraisemblable. C'est pour ça que, au point de vue psychologique, on dira que tout amour passionnel implique en virtuellement la haine. Et la haine, c'est pas simple. C'est comme les jalousies, c'est pas simple. C'est une complication invraisemblable. Vous tirez d'un point de vue. Très très complexe. Il n'y a que l'amour spirituel dans toute sa pureté qui est simple. Mais vous ne le vivez pas d'une façon simple. Votre vécu d'amour spirituel est toujours lié à des états passionnels qui le rendent très compliqué. Mais, alors, par moments, il y a des lumière amoureuse qui est simple, mais l'amour n'est pas simple, n'est pas vécu de façon simple pour nous, parce qu'il est vécu, il est toujours un peu embryonnaire. Je peux toujours aimer plus. Je ne peux jamais dire maintenant c'est terminé dans l'ordre de l'amour, j'ai atteint le sommet. Pas du tout, c'est infini. Donc il y a toujours quelque chose d'embryonnaire. Toujours quelque chose de potentiel dans l'amour. Une capacité d'aimer plus. Exactement comme dans la vérité. La vérité, celui qui dit que je possède la vérité, mais c'est pour qu'il n'a pas compris la vérité. Je ne peux jamais posséder la vérité. Je suis possédé par la vérité, mais je ne possède pas la vérité. Je saisis quelque chose de vrai, un aspect de la vérité. Puisque la vérité, c'est la réalité existante qui est mesure de ma vérité. Or, cette réalité existante, quand il s'agit de la personne humaine, possède quelque chose qui m'échappe tout le temps. Je ne peux jamais dire à quelqu'un, tu es pour moi absolument lumineux. Mais non. Il y a toujours dans la personne humaine quelque chose d'obscur. véritable. Saisissez que je suis là en présence de 6 états d'actes impliquant Entelekeia et Energeia dans un dosage plus ou moins fort, et que je distingue cet état d'acte d'opération d'un état de capacité. Sans oublier ce que j'ai dit au point de départ, l'état de sommeil et l'état de veille. Alors, il y en aurait 7. Nous avons eu 6. Il y en a un fondamental que j'avais vu au début. Celui qui est attentif, éveillé. Et celui qui est beaucoup moins attentif et qui dort. Et l'état de sommeil et l'état de veille sont quelquefois très proches l'un de l'autre. Il faut sortir du sommeil. Et on met du temps à sortir du sommeil. Oui, quand on a un manque de sommeil. Là, c'est pas le manque d'actes, mais c'est le manque de sommeil. C'est pour ça que certains diront « Je suis éveillé pour mieux dormir ». D'autres diront « Je sors du sommeil pour être éveillé ». Il y a deux spiritualités différentes. Philosophie de l'être, les 10 prédicaments me montrent que dans les 10 prédicaments sont descriptifs. C'est une propédeutique de la philosophie première. Les 10 prédicaments qu'il faut savoir par cœur, je les répète, substance seconde. Puisque la substance première est au-delà des prédicaments. C'est le sujet de tous les prédicaments. Substance seconde, Pierre est un homme. Homme. Quantité. Qualité. Relation. Action. Passion. Temps. Lieu. Situs. Habitus. Vous pouvez savoir par cœur. Et autant que possible, il faut comprendre ce que c'est. La signification de ces 10. Et autant que possible, il faut réfléchir s'il y en a un 11e. Et si vous le découvrez, vous me le direz. Parce que l'habitus, c'est le capharnaüm. C'est tout ce qui est, tout l'homme dans son usage. Il a un stylo, il a une cape, il la reconnaît au milieu de toutes les autres. Pourquoi ? Parce que c'est sa cape. Il a une pipe, c'est sa pipe. Il la reconnaît au milieu de toutes les autres pipes. Il a un outil, c'est son outil. Et ainsi de suite. Et le vieux garçon, il vit dans son habitus. Et dès que ses pantoufles sont mis autre part, c'est un drame. Ce matin, je n'ai pas trouvé mes pantoufles. Elles étaient là, j'en suis sûr. Et je ne les ai pas trouvées ce matin. Et ça m'a mis en colère. Et c'est le drame pour toute la journée. Je prends les pantoufles et autre chose aussi. Hein. Parce que ça arrive, ça. Vous voyez ? Le vieux garçon, il est enfermé dans son habitus, dans ce qu'on appelle le prédicament habitus. Mon avoir, mes usages, mes petites habitudes, mes grandes habitudes. Et si on change ça, ah, c'est fini. Ça, c'est facile à comprendre. Hein, parce que, c'est-à-dire, il faut en sortir pour le comprendre. le vieux garçon ou la vieille fille, n'est-ce pas, est enfermé dans son habitus. Tellement enfermé qu'il ne le voit même pas. Là, moi, j'ai aucune habitude. Je suis libre de mes habitudes. Et pas du tout. Alors, faites-lui comprendre que, de fait, et c'est ce qu'on fait, on voit quelqu'un qui a ses habitudes, il met toujours ses souliers comme ça, met toujours ses pantoufles comme ça. Exprès, on les cache. Et on s'aperçoit qu'il est en colère. Mais ça, c'est notre avoir. Habitus dans le sens de avoir. C'est la catégorie avoir. C'est l'habitus. La catégorie avoir. Cette catégorie avoir, elle colle à nous. C'est pour ça que c'est si rare des pauvres qui n'ont pas d'avoir. Volontairement, ils n'ont pas d'avoir. Ils ont accepté de ne pas avoir d'avoir. C'est la dernière catégorie, habitus, avoir, qui se donne dans l'usage. Tout avoir implique un usage. J'ai mon âne. J'ai ma serviette. J'ai, et ainsi de suite, j'ai ma cellule. Alors vous voyez, dans un style religieux, anciennement, notre cellule, nos souliers, nos lunettes, pour ne pas dire ma paire de lunettes, nous avons nos lunettes, parce que nous vivons la vie commune en pauvreté. Alors on a changé ça. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a que le langage. On voit bien ce que c'est. C'est très difficile d'être pauvre. La pauvreté joue à l'égard du dernier prédicament, avoir. Alors là, vous voyez très bien ce que c'est. Parce que, quelquefois, à l'égard des biens importants, on accepte. Mais mon Dieu permette, quand même, il y a ce petit livre. Ah, celui-là, je ne peux pas m'en séparer. Il y a cette statue, je ne peux pas m'en séparer si on est de la dévotion. Je ne peux pas m'en séparer, c'est impossible. Donc, votre avoir se réfugie dans une attitude religieuse. Le vieux garçon religieux, dévot, c'est pire que tout. Et la vieille fille aussi, religieuse. Mais la dévotion, c'est curieux, la dévotion est un avoir. Bon, alors, les 10 prédicaments. Dans les 10 prédicaments, il y a l'acte et la puissance. Et on comprend très bien ce que c'est que l'action.
Je crois pas qu'il y en a d'autres. On pourrait trouver
l'intérieur de la qualité, à l'intérieur de la qualité, la puissance, et puis l'amour. Je suis capable d'aimer et d'aimer. Vous voyez, on les retrouve, on les a déjà vus. De sorte que, pratiquement, il y a 8 modalités de puissance et d'acte. Alors maintenant, je me pose la question. C'est ça qui est important. Qu'est-ce que c'est qu'au point de vue philosophie première, au point de vue donc métaphysique, qu'est-ce que c'est que la fin de ce qui est en tant qu'il est? La question est très, très difficile à bien saisir. Et pourtant, elle est capitale. Puisque toute induction ne peut se faire que si l'interrogation est très lucide. Parce que plus elle est lucide, plus elle est percutante. L'interrogation, c'est l'intelligence qui se tend. C'est mon arc intérieur. Alors, s'il n'y a pas d'interrogation, mon intelligence n'est pas en éveil. C'est l'intelligence qui veut découvrir qu'est-ce que c'est que l'être en là. Et j'ai tout à fait le droit de découvrir ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'Elente Keia et l'Energeia? Je veux savoir ce que c'est. Donc la question a bien été posée. Et ça prouve que vous avez été attentif et que ces 8 modalités d'acte et de puissance vous ont éveillé. Qu'est-ce que c'est que l'être Energeia, l'être en acte? Qu'est-ce que c'est que l'Entelekeia? Qu'est-ce que c'est qu'être en puissance? J'ai vu les diverses modalités, mais je n'ai pas saisi ce que c'était que l'être en acte et l'être en puissance. Vous voyez, je veux le saisir au niveau de l'être. Comme j'ai saisi la substance, comme le principe, ce qui est premier dans l'ordre des déterminations de l'être, je veux maintenant saisir ce qui est premier dans l'ordre de l'acte, au niveau de l'être. Autrement dit, la finalité au niveau de l'être. Et c'est pas commode à saisir. Rien n'est en dehors de l'être. Donc je ne peux pas dire que l'être en acte, c'est de surêtre. Ça a été dit, ça, le père de Finance, qui était professeur de métaphysique à la Grégorienne, qui est un vénérable père jésuite, merveilleux du reste, un saint homme. Alors, il essaye d'exprimer ça en disant un surêtre, un super-être. Le super existe au niveau de l'essence, mais au niveau de l'être, c'est plus difficile. Mais là, vous retrouvez le problème de l'être et de l'essence. Est-ce que vous avez un super des deux côtés? Qu'est-ce que c'est que le super-être du père de Finance? Qu'est-ce que c'est que l'être qui est parfaitement être? Donc, j'interroge. Et quand j'interroge, pour résoudre le problème, je reviens à ces 8 expériences. Nous avons détecté ces 8 expériences, et je reviens maintenant à ces 8 expériences. Je vois que ces 8 expériences ne peuvent être parfaitement intelligibles que si je les comprends toutes liées les unes aux autres. C'est pour ça qu'Aristote dira induction synthétique analogique. Si vraiment l'être en acte est ce qu'il y a d'ultime, rien n'est au-dessus de l'être en acte au point de vue intelligible. Rien n'est en dessous de l'être en puissance. La matière, être en puissance. C'est donc la distinction la plus radicale qui soit. Si c'est la distinction la plus radicale qui soit entre l'être en acte et l'être en puissance. En saisissant l'être en acte, je saisis ce qu'il y a de super intelligible. Je ne peux pas aller au-delà. J'aime mieux dire super intelligible que super être. C'est l'intelligible dans son maxime étalé. Je ne peux pas aller plus loin. Alors pour saisir cet intelligible ultime dans l'être, je me sers de ces 8 expériences. Et je vois que ces 8 expériences, toutes, passage de la capacité vers l'acte, ces 8 expériences ont quelque chose de commun. Et elles sont en même temps toutes très diverses. Ces 8 expériences ont quelque chose de commun. C'est que je suis toujours en face d'un état en puissance et d'un état en acte. Dormir et être éveillé. Être capable de travailler et travailler. Et dans mon travail, je vois du plus et du moins le travail qui atteint son achèvement, l'œuvre. Et le travail qui est en train de réaliser l'œuvre. Je vois dans l'amour d'amitié ma capacité d'aimer. C'est un acte volontaire, l'amour. Je suis capable d'aimer. Mais je sais que ça m'entraînera trop loin si je veux aimer. Alors, j'aime mieux demeurer dans un état de torpeur et ne pas trop aimer. Ça va tout déranger dans ma vie. Alors je demeure dans un... J'aime mieux rester dans ma capacité d'aimer. Et quand j'aime, je vois qu'il y a le vécu d'amour. Et puis l'amour qui atteint l'ami. Vous voyez, comprenez bien ce qu'est cette induction. Que j'élabore, j'ai tout à fait le droit de le faire. Personne ne m'interdit de le faire. Je regarde. Premier niveau. Au niveau du facere. Je vois le travail. Un travail ordonné par l'idée. L'idée est dans ce travail et l'œuvre. Et la capacité de travailler, capacité de travailler. Et avant, fondamentalement, le fait de dormir, être éveillé. Être éveillé, il est vécu. Alors, plus ou moins, je suis plus ou moins éveillé avant le petit déjeuner et après le petit déjeuner. Pendant l'oraison et après l'oraison. Et puis ma capacité de dormir. Je reste. Je suis pas éveillé quand je dors. Vous voyez, si vous voulez, vous le mettre dans l'aspect de conscience qui est impliqué dans être éveillé. Et la non-conscience. Conscience n'est pas l'inconscient. Vous voyez bien. Dans le langage aujourd'hui, l'inconscient a une signification particulière. Deuxièmement, au niveau de l'amour d'amitié. C'est autre chose. Troisièmement, au niveau politique, on a dit qu'il n'y avait rien. Au niveau philosophie de la matière. La potentialité radicale de la matière. Le feu. Quatrièmement, la vie du vivant, la génération, alors l'être, le vivant, le fruit de la génération, tous les niveaux différents au point de vue intelligible. Le niveau fondamental, conscience, non-conscience. Pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait conscience. La non-conscience et la conscience. Au niveau de l'activité, du travail, au niveau amour d'amitié, au niveau de l'intelligibilité du monde physique, de l'intelligibilité du vivant, et au niveau des prédicaments qui rejoint le fait de dormir, action, passion. Ça peut se décrire. Je peux en avoir l'expérience. Je vois que c'est à tous les niveaux que je peux atteindre. Les niveaux d'intelligibilité que je peux atteindre. Parce que je suis impliqué dedans, par exemple, le fait de travailler, si je fais un travail scientifique, et puis ne pas travailler, c'est impliqué dedans. C'est le travail. C'est être éveillé à ce travail. C'est réaliser quelque chose ou ne pas le réaliser. Tous ces niveaux sont divers et il y a toujours quelque chose de commun. d'un état potentiel à un état en acte. Et je vois qu'il y a un ordre. Ce qui est en puissance, ce qui est en puissance, c'est-à-dire la capacité de me réveiller, et puis ce qui est en acte, plus et moins, mais ce qui est en acte, donc être éveillé. Il y a un ordre, cette capacité est ordonnée à être en acte. Je retrouve partout le même ordre. Mais je le trouve dans des états différents. Donc, il y a une unité dans la diversité. C'est ça qu'il faut saisir. Hein. Le métaxuil est là. Il y a une diversité d'état en puissance, d'état en acte. Et dans l'état en acte, je vois du plus et du moins. Le mélange de l'énergeia, l'entelekeia, qui est très, très, très lié. Je vois donc un ordre de ce qui est en puissance vers ce qui est en acte, à des niveaux différents. Pourquoi je retrouve ce même ordre dans cette diversité? Pourquoi? Voyez la question. Pourquoi je retrouve ce même ordre dans cette diversité? Qu'est-ce qu'il y a de commun dans toute cette diversité? Ce qui est commun dans toute cette diversité ne peut être qu'au niveau de l'être. Seul l'être fait l'unité de cette diversité. La vie, non, puisqu'il y a des réalités non vivantes. Le monde physique, je retrouve la même chose. Le devenir, non, puisque le vivant dépasse le devenir. Et il y a autre chose. Et je retrouve ça dans l'ordre même de la forme comme telle. Dans le monde physique. Donc, seul l'être explique cette unité dans cette diversité. Il faut donc que dans l'être lui-même, il y ait acte et puissance. Vous voyez ? L'induction. Synthétique, analogique. C'est ce qu'il y a de commun dans toute cette diversité qui ne peut se réaliser qu'au niveau de l'être, qui me permet de dépasser la diversité et d'atteindre ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a d'un dans cette diversité. Et à ce moment-là, je ne suis plus au niveau des états différents. Je saisis un principe qui est un principe fin et qui est au niveau de l'être. Je saisis donc l'être en acte fin de l'être en puissance. Et je retrouve cette diversité, quelque chose d'analogiquement le même. Seul l'être en acte et l'être en puissance donne l'intelligibilité dernière de toute cette diversité. C'est parce que toute cette diversité implique l'être sous deux états. Que il y a ce quelque chose de commun. Je peux donc regarder ce quelque chose de commun pour lui-même et découvrir l'être en acte comme fin de ce qui est en puissance. Oui, je suis vraiment là en présence d'une induction qui me fait passer de l'expérience à la saisie d'un principe. Ce principe n'est plus un principe fondamental, mais un principe ultime. L'être en acte, qui est fin, et qui donne la signification à l'être en puissance. Mais c'est subtil, parce qu'on touche ce qu'il y a de tout à fait ultime dans la vie d'intelligence. L'intelligence est faite pour saisir l'être en acte. Et l'être en acte lui permet d'avoir l'intelligibilité de toutes les autres parties de la philosophie. Puisque dans chacune des parties de la philosophie, je retrouve un état de quelque chose qui est en acte et quelque chose qui est capable de l'être. J'ai la possibilité d'expliciter, de dévoiler l'être en acte à travers ces diverses modalités. Et en dévoilant l'être en acte à travers toute cette diversité, je saisis, j'explicite l'être en acte fin. Vous voyez, l'être en acte fin, je le saisis comme la ratio, la raison de ces divers modes. Cet être en acte n'existe jamais en dehors de ces modes. Mais l'intelligence peut le dévoiler. Et c'est ça, c'est propre justement d'une intelligence analogique qui saisit la différence entre telle modalité et la diversité de ces modalités. Plus elle est grande, plus elle exige d'aller loin dans ce qu'il y a de commun, dans ce qui unit cette diversité. Quand je regarde la diversité de l'être, celui qui dort et celui qui est éveillé, et dans la philosophie du vivant, mon intelligence qui cherche la vérité et l'acquisition de cette vérité, analogiquement, c'est la même chose que celui qui dort et celui qui est éveillé. Et c'est totalement différent, puisque d'un côté c'est radical, c'est toute ma vie, et de l'autre côté c'est la fine pointe de mon intelligence qui cherche la vérité et qui acquiert la vérité. La différence, dormir et être éveillé dans l'amour d'amitié, j'ai la capacité d'aimer et j'aime. Et dans l'amour d'amitié, j'ai la capacité de rester dans un amour, le vécu, et de dépasser ce vécu et d'atteindre l'ami. Je vois tout le temps qu'il y a un ordre de quelque chose qui demeure en puissance et quelque chose qui est en acte, quelque chose qui finalise et quelque chose qui est finalisé et qui en lui-même peut rester dans un état de potentialité. Vous voyez ? Et je vois que de fait, seul au niveau de l'être, qui est commun à tous ces aspects-là. Ceci existe. Jugement d'existence. Retrouvez le jugement d'existence. Le jugement d'existence est présent à tous ces états. Si le jugement d'existence est présent à tous ces états, le jugement d'existence se donne à moi selon une très grande diversité. Le jugement d'existence de celui qui dort et de celui qui est éveillé. Oh, le jugement d'existence, vous ne l'avez que quand vous êtes éveillé. Quand vous dormez, vous ne l'avez plus. Mais vous dites, celui qui dort peut être éveillé. C'est le même homme qui dort et qui est éveillé. Quiditativement, rien n'est changé. Ah, vous direz que c'est deux hommes différents. Ah, tu es tout autre quand tu es éveillé que quand tu dors. Est-ce que tu es beau quand tu dors? Ça, c'est la mère qui dit ça à son petit enfant. C'est un ange quand il dort, mais quand il est éveillé. Voyez, donc elle inverse l'ordre. Il est plus beau quand il dort que quand il est éveillé. Donc, il est éveillé pour dormir, au point de vue de la beauté. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est que justement, la quiddité homme est la même dans l'état de celui qui dort et celui qui est éveillé. Et donc la quiddité homme peut apparaître formellement d'une manière beaucoup plus pure quand il dort que quand il est éveillé. C'est vrai, c'est admirable de voir un gosse qui dort. Et vous êtes jamais posé pourquoi, quand il dort, c'est plus beau que quand il est éveillé. Pourquoi? Parce que justement, l'acte est au-delà de la quiddité. C'est au-delà de la forme. Et que la forme est dépassée. Or, la beauté du côté de la forme. Et la forme peut apparaître de façon beaucoup plus forte dans celui qui dort que dans celui qui est éveillé. Il y a un aspect, vous voyez, ce ne sera pas la même beauté. La beauté de celui qui court, la beauté de celui qui va au-dessus du mouvement, est un autre type de beauté que la beauté de celui qui est statique. Une exposition dans le temps à Paris, je me souviens, entre l'art grec et l'art de l'Inde. Et vous voyez, les statues grecques qui avaient le point de vue du mouvement, et l'Inde, l'aspect hiératique, statique, le Bouddha immobile. Le Bouddha est immobile. La beauté du Bouddha, c'est d'être immobile. Et plus il donne l'impression d'être immobile, plus il est Bouddha. Alors que le grec saisit le mouvement. Vous avez deux états tout à fait différents. Tout à fait différents. Et vous pouvez très bien mieux aimer le Bouddha. Le petit Bouddha enfant. Ce qu'il est beau quand il dort. Ce qu'il est beau. Admirable. Il est angélique. C'est une beauté extraordinaire. On est dans un état d'admiration quand il dort. Quand il est éveillé, l'admiration disparaît. Pourquoi? Parce que justement, la saisie de l'acte et de la puissance est au-delà de la saisie quiditative. C'est la même réalité, quiditativement parlant, donc au point de vue de la nature, entre celui qui dort et celui qui est éveillé, en celui qui peut travailler, qui travaille, en celui qui peut aimer, celui qui aime. Je suis au-delà de l'aspect détermination, donc de la substance. La la substance est la même dans un état de puissance et dans un état d'acte. La distinction puissance et acte est donc au-delà de la forme, et je